une vue d'ensemble de l'actualité.
La prestation canadienne d'urgence est un remplacement de revenus comme l'assurance-emploi. Et comme l'assurance-emploi, ce serait taxable. Mais nous n'allons pas retenir de l'argent à la source. Donc, les gens vont recevoir l'argent nécessaire immédiatement et dans son entièreté. Parce qu'on a un système de taxation progressif, on va pouvoir s'assurer que les gens qui en ont le plus besoin bénéficieront au maximum.
Trainville PM.
Donc, le 2000 par mois, ce matin, dans la chronique de Paul Arcan, je vous ai dit, le gouvernement, Justin Trudeau, a décidé hier dans la journée que ce ne serait pas taxable. Bon. Vous venez de l'entendre dire que ça va l'être. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réactions quand même assez fortes à cette décision donc de ne pas taxer le 2000 $. Et donc, il a coupé la poire en deux. C'est-à-dire que votre 2000 $, vous allez le recevoir dans son entièreté, donc il ne sera pas taxable à la source. Ce qui était prévu au départ, c'est qu'ils allaient enlever autour de 200 $. Il y aurait une déduction de 200 $ sur le chèque. Donc, il serait taxé à la source. Là, il ne sera plus taxé à la source. Vous allez recevoir le 2000 au complet. Sauf que vous allez devoir le mettre sur votre rapport d'impôt. Donc, il va être imposable au moment où vous allez faire une déclaration, votre déclaration d'impôt pour 2020. Donc, vous voyez l'espèce de nuance. Il devait y avoir déduction à la source de 200 $ et ça devait être imposable. Là, il n'y aura pas de déduction de 200. Vous allez recevoir le 2000 au complet, mais vous allez devoir déclarer la totalité du montant sur votre rapport d'impôt. Pour discuter de tout cela et de bien d'autres choses, Stéphanie Gramont, journaliste économique à La Presse. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Bernard.
Avant de parler de l'aide financière du gouvernement fédéral, le 2000 $, la subvention salariale également que Justin Trudeau a annoncé ce matin, le 75% quand même du salaire qui sera subventionné par le fédéral pour les salaires des PME. On va faire un petit détour par la baisse du taux directeur de la Banque du Canada. Là. Écoute, le taux directeur est à 0,25%. Quel impact ça va avoir sur nos hypothèques?
Bien, ça va avoir un impact intéressant, là, surtout pour les gens qui ont une hypothèque à taux variable, parce que normalement, je dis bien normalement parce que en situation de crise, des fois, on peut avoir des surprises, mais normalement, les banques, les prêteurs vont diminuer leur taux préférentiel et ça va faire en sorte que tous les prêts, hypothèques, marge de crédit, etc., qui sont à taux variable, vont voir le taux va diminuer aussi.
C'est automatique, Stéphanie, parce que est-ce qu'on doit faire confiance à notre banque?
Ben, c'est ça. Alors, normalement, oui, mais durant la crise du crédit, on a vu que non. C'est des circonstances extraordinaires, là, ouais. Mais on l'a vu à ce moment-là que certaines banques ont décidé de ne pas baisser leur taux préférentiel au même rythme que la Banque du Canada. Donc, c'est comme si elle avait gardé une petite portion là de la baisse des taux pour elle. Ça, c'est un peu fâchant. Mais est-ce qu'on va le voir cette fois-ci? Ça reste à suivre. Là, on a eu... C'est énorme, là, parce que il y a eu, 150 points centésimaux de baisse là, au mois de mars. Donc, 1,5 %, c'est énorme. Pour les gens qui ont une hypothèque à taux variable, là, c'est des milliers de dollars qui pourraient économiser là, à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui pourraient renégocier leur hypothèque à taux fixe. Et ça aussi, ça vaut vraiment la peine.
Dis-nous comment on fait ça. Dis-nous comment on fait ça, parce qu'en principe, on est à taux fixe, on a signé, mettons, pour 3 ans un taux X. Donc, en principe, tu te dis, je peux pas changer. Sauf que dans les faits, tu peux t'essayer.
Oui, en fait, c'est fermé, mais fermé jusqu'à temps qu'on le renégocie. Le problème, c'est que certaines banques ont des pénalités qui sont extrêmement élevées. Ça peut aller jusqu'à 10 000 $. Donc, il faut faire le calcul. Dans certains cas, ça vaut la peine. Dans d'autres, non. Ça dépend de la période d'amortissement qui reste. C'est sûr que s'il reste juste 3 ans, là, ce qu'on rembourse, c'est surtout du capital, pas des intérêts. Donc, peut-être que ça vaut moins la peine. Mais dans certains cas, moi je l'ai fait l'exercice là, ça peut représenter là vraiment beaucoup d'argent. Donc ça vaut la peine de s'asseoir avec sa banque, surtout pour les gens qui sont coincés financièrement là en ce moment parce qu'ils ont perdu leur emploi. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le fédéral qui a demandé aux banques de faire preuve là de clémence pour les 6 prochains mois. Donc il y a toutes sortes d'options là qui s'offrent.
Mais ce qu'on peut dire Stéphanie, ce qu'on peut dire de façon générale là, même si vous avez un taux fixe, vous ne perdez rien de vous asseoir avec votre banquier puis de dire, regarde bien là, moi j'ai signé à tel taux, depuis les dernières semaines, ça a beaucoup baissé, mon échéance hypothécaire est dans 1 an, 2 ans, je ne sais trop. Si tu veux me garder au moment du renouvellement, je pense qu'on pourrait peut-être se jaser un petit peu, puis s'il n'y a pas d'écoute, tu peux toujours aller voir une autre institution financière.
Oui.
Et dire, il me reste, mettons, oui. 15 ans mon hypothèque, 20 ans mon hypothèque, seriez-vous prêt à payer ma pénalité, puis je sors de ma banque actuelle, là, je mets fin à mon hypothèque avec la banque X, puis je m'en viens chez vous, mais je m'en viens chez vous à tel taux, puis on s'entend, puis vous me payez ma pénalité. Ça se peut, ça. Moi, je l'ai déjà fait, je vous le dis,
Ça se peut très, très bien. Oui, c'est pas un mythe. Les banques se battent pour aller chercher des nouveaux clients. Alors, bien sûr que si on arrive et on n'a pas d'écoute de la part de notre banquier, ça vaut la peine d'aller voir, de faire un magasinage soi-même ou sinon d'aller voir un courtier hypothécaire qui va faire le magasinage, qui connaît le marché et qui va nous guider vers l'institution qui est la plus intéressante.
Il nous coûte combien le courtier? J'ai jamais fait affaire avec un courtier hypothécaire, Stéphanie Gramont. C'est-tu un montant fixe qu'il va te demander? Comment ça fonctionne?
Bonne question. En réalité, les courtiers, ce ne sont pas les consommateurs qui les paient directement. Ils sont rémunérés par les institutions auxquelles ils réfèrent les clients.
Donc, mais la banque va finir par se payer sur le prêt, sur le prêt hypothécaire.
On finit par le payer d'une manière quelconque à l'intérieur. C'est reflété à l'intérieur du taux d'intérêt. Mais concrètement, le client n'a pas à faire un chèque à son courtier.
Stéphanie, on va parler un petit peu de l'aide financière. Évidemment, dans le contexte de crise, parlons de l'aide financière en particulier qui est offerte par Ottawa là pour les gens qui sont affectés par la crise. D'abord le 2000 par mois qui va être offert à partir du mois d'avril. Est-ce que pour toi c'est une bonne mesure?
Ben, je pense que les Canadiens ont besoin d'argent, là, c'est sûr et certain. On sait que les gens, malheureusement, ont pas d'argent, vivent d'une paie à l'autre, et puis ils sont même pas capables de faire face à une dépense là, si une dépense qui arrive comme une surprise. Donc là, imaginez-vous, s'ils ont plus de salaire du jour au lendemain, c'est sûr que il faut faire quelque chose, faut intervenir. Alors, l'assurance emploi, on le sait, était complètement débordée. Et ça prenait une mesure plus large, plus souple, plus rapide. Je pense que c'est ce que Ottawa a voulu faire. Il en a voulu essayer d'aller donner quelque chose aux oubliés de l'assurance emploi, donc des gens qui étaient à temps partiel, des gens qui étaient travailleurs autonomes bien sûr, puis qui cotisent pas à l'assurance emploi. Donc dans cette perspective là, ben je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui, ça va donner tout un répit à ces gens là.
Alors si vous avez des questions sur l'accès à l'aide financière annoncée par Justin Trudeau, parce qu'on s'en rend compte, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. On va prendre vos questions, 790-9850, 98985 par texto, ou encore Drainville à commercial, 985fm.ca. On prend les questions avec Stéphanie, qui reste avec nous après la pause. On va prendre les premiers appels. C'est Patrick, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, on vous écoute, Patrick.
Oui, on a une question. Nous, on est pompiers temps partiel, puis dans le Québec, il y a plusieurs villes là, qui... On a des temps partiels sur appel. Fait qu'on a une première job. Fait qu'on est beaucoup de gens ont perdu leur travail principal là, cette semaine ou en début de semaine prochaine, que les usines ou les entreprises cessent leur activité. Les gars reçoivent des appels de soir, de nuit, de jour. On répond aux citoyens, on est un service essentiel. Par contre, ceux qui se qualifient pour le 2000, on répond à un appel d'urgence, X raison, qu'on est rémunéré un 3 heures ou un 4 heures. Vont-ils se faire couper? Est-ce qu'il y a des mesures exceptionnelles prises pour les pompiers? On a posé nos questions à différents paliers gouvernementaux. On n'a aucune réponse. C'est pas clair pour personne. Je ne sais pas si vous avez une réponse à me donner là-dessus.
Stéphanie, est-ce que tu as une réponse?
En fait, c'est assez difficile d'avoir des réponses du gouvernement en ce moment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle prestation universelle, elle est disponible pour les gens qui perdent leurs revenus à cause de la pandémie. Donc, pour être admissible, il faut avoir eu aucun revenu durant une période de 14 jours consécutifs à l'intérieur de la période de 4 semaines pour laquelle le montant est versé. Et le ministère m'a confirmé hier que si on a un tout petit revenu, donc quelqu'un qui a perdu 75 % de ses revenus, c'est beaucoup, mais le 25 % qui reste va l'empêcher de recevoir la prestation.
Il faut qu'il s'inscrive à ce moment-là. S'il a perdu des revenus, mais il continue à en recevoir, il serait admissible à l'assurance-emploi. C'est ce que je comprends, Stéphanie, moi.
Oui, mais c'est alors, ça. Bonne chance, les délais peuvent être assez longs.
Oui, non, effectivement. Puis, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent là à propos de l'assurance-emploi. Justement, si vous avez déposé une demande d'assurance-emploi après le 15 mars, le dossier, votre dossier, va être transféré à l'Agence du revenu pour le 2000 $ par mois. OK, ça va oui. se faire. Il y a eu du flou, honnêtement, autour de ça, parce qu'à un moment donné, les deux systèmes informatiques, ils n'arrivaient pas à faire parler les deux systèmes informatiques, celui de l'assurance-emploi et celui de l'Agence du revenu, mais ils ont trouvé une façon. Et donc, à partir de toutes les demandes d'assurance-emploi, pour lesquelles vous n'avez pas reçu de chèque, évidemment, après le 15 mars, s'en vont directement pour le 2000 $ par mois, donc vous n'aurez pas besoin de réappliquer. On s'en va à Michel. Bonjour.
Bonjour. Moi, je suis un employeur. J'essaie de compléter les RE web sur le site, mais c'est impossible de me loguer. C'est toujours en surcharge. Je voulais savoir si je devais payer des vacances si je complète un relevé d'emploi. Mais là, il semble, avec ce que vous dites, que je n'aurais pas besoin de faire de relevé d'emploi pour que mes employés qui sont arrêtés depuis le 24 mars puissent recevoir leur indemnité.
Ce que je comprends,
non,
là.
C'est ça, apparemment, là, que le gouvernement ne demandera pas ce genre de preuves-là. Il va plutôt se fier sur la bonne foi, mais c'est des détails aussi qui restent à confirmer. Quel genre de preuves on va demander, ce n'est pas encore tout à fait clair.
Mais ce que je comprends, Stéphanie, c'est que un employeur qui décide de garder ses employés là pourra obtenir une subvention égale à 75 % du salaire. Évidemment, je pense bien qu'il va y avoir un plafond. Il va certainement y avoir un plafond. Donc, si je vous comprends bien, Michel, enfin, je vais vous poser la question. Si on vous dit le gouvernement va subventionner 75 % du salaire de chacun de vos employés, est-ce que vous les gardez à votre emploi ou est-ce que vous, vous les mettez à pied puis à ce moment-là, ils se tournent vers l'assurance-emploi ou vers le 2000 par mois?
Moi, c'est sûr que je garde mes employés. Peu importe, je suis un courtier automobile, je travaille avec les compagnies d'assurance. Mais là, les concessionnaires sont fermés côté vente. Alors, je ne peux pas travailler, mais c'est sûr qu'au retour, mes employés ont un travail.
Très bien, merci pour l'appel. On s'en va du côté de Tony. Bonjour, Tony.
Oui, bonjour. Moi, mettons, je travaille saisonnier, OK?
Saisonnier,
oui. Je travaille du mois de avril jusqu'au mois de novembre, OK? Si on ne travaille pas d'ici au mois de, mettons, avril, mai, juin, il va c'est bien beau avoir l'aide, mais après ça, si on recommence à travailler, on n'aura pas assez d'heures après pour avoir le chômage pour l'hiver.
Oui.
Ils règlent un problème, puis là, ils vont créer un autre problème.
Stéphanie, réaction?
Ce qui se passe, c'est que effectivement, les gens qui vont avoir droit, les gens vont avoir droit à la prestation d'urgence s'ils ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19, dans la mesure où ils ont accumulé 5 000 $ de revenus au cours de la dernière année. Ça, c'est les règles. Mais évidemment, ils peuvent par la suite, si on ne se retrouve pas un emploi après le mois d'octobre, là, qui est la date d'échéance du programme d'urgence, c'est possible ensuite de transférer sur le régime d'assurance-emploi. Mais évidemment, il faut être admissible. Si on n'a pas les heures suffisantes, ça peut être un enjeu. Mais les gens qui auraient eu droit à de l'assurance chômage, à de l'assurance-emploi aujourd'hui et qui optent pour la prestation d'urgence vont pouvoir continuer à l'échéance là, parce que ça, c'est pour 4 mois.
C'est ça.
Mais à l'issue des 4 mois, vont pouvoir aller chercher leur assurance-emploi.
ce qui te reste,
qui
en fait.
Voilà,
ça, ouais. Exactement. Très bien. Écoutez, je vois que vous avez beaucoup, beaucoup de questions. Puis, c'est normal, OK? C'est normal. Stéphanie et moi, on en parlait ce matin. Les choses changent. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, puis les règlements d'application, les conditions d'accès sont même pas encore connues, n'est-ce pas, Stéphanie? Parce que, pour reprendre l'expression de Patrick Lagacé, on fait voler l'avion en même temps qu'on le construit, là.
Oui, c'est ça, exactement.
Hein? C'est ça.
Mais non, effectivement, moi, j'ai posé une foule de questions au ministère des Finances hier, aujourd'hui, puis les réponses arrivent pas toujours aussi rapidement qu'on voudrait. Puis en même temps, il y a d'autres annonces, comme celle qu'on a vue ce matin de la subvention là pour les entreprises. Alors, je pense que le gouvernement essaie de réfléchir en même temps qu'il agit.
Ça ajuste au fur et à mesure. Donc, on recommencera l'exercice la semaine prochaine, aussi souvent que ce sera nécessaire pour préciser les mesures annoncées, pour que vous les compreniez bien, pour être bien certain que vous puissiez en bénéficier, parce que c'est pour vous que ça a été conçu. En tout cas, c'est le principe, c'est d'aider le monde. Stéphanie Gramont, journaliste économique à La Presse. On se reprend. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Juste avant d'aller à la pause, je veux juste vous dire là qu'en fin de semaine, Jeffrey Subrani et François Gagnon vont répondre à vos questions de 14h à 17h, donc une émission spéciale, donc style de tribune libre sur les programmes d'aide. Un peu l'exercice qu'on vient de faire avec Stéphanie. Donc 14h à 17h avec Jeffrey Subrani et François Gagnon en fin de semaine. Vous pourrez poser vos questions. On s'en va à la pause. Au retour, la recherche pour un médicament pour lutter contre la COVID-19.